La première marche du chemin vers le bonheur pour de nombreux sages est tout d'abord l'accomplissement de soi ou plus encore l'amour de soi. Jésus n'a-t-il pas dit d'aimer son prochain comme soi-même? Mais il est souvent difficile de s'aimer soi-même. Êtes-vous capable de dire, comme le psalmiste, « Merci pour la merveille que je suis ». Je vous vois sourire. Paul Devendre, bonjour.
Bonjour Bénédicte.
Est-ce que vous-même vous arrivez à le dire devant votre glace?
Oui.
N'est-ce pas un chemin tout simplement d'abord d'humilité, d'acceptation de la réalité?
C'est justement un des tests que je partage depuis très très longtemps. Quand je parle d'amour et d'estime de soi, je dis, ben voilà, essayez, mettez-vous devant votre miroir, vous vous regardez vraiment pendant quelques secondes, il y a vous et vous, donc c'est vraiment, ça n'a rien à voir avec les autres et quoi. Vous regardez vraiment, et puis vous prononcez votre prénom et vous dites, je t'aime.
Ouh là là.
Et puis voyez les réactions, les résistances qu'il va y avoir, t'as vu ta gueule, et ça va, moi je te connais. Enfin, donc, et c'est ça qui est incroyable, c'est cette petite voix intérieure que l'on a intégré et qui nous sabote à longueur de journée. C'est impressionnant de voir toute la négativité qu'on peut avoir et on vit avec ça depuis notre enfance. En fait, ça vient d'où toutes ces choses-là? Mais ça vient de professeurs, ça vient de nos parents, ça vient de la colère qu'on a pu subir, de nos parents qui nous ont dit « t'es paresseux, t'y arriveras pas », etc. Et c'est une forme d'éducation à cette époque-là où on pensait qu'en étant un peu dur, on titillait la personne pour l'améliorer. Depuis lors, il y a la psychologie positive qui est arrivée, etc. On se rend compte qu'en fait, c'est bien plus fort d'encourager les points positifs plutôt que chaque fois de souligner les points négatifs. Mais c'est un travail qui va prendre encore quelques générations pour changer ce regard-là.
Là, vous parlez de la psychologie positive, mais en fait, j'ai commencé en introduction par une parole du Christ, mais il y a aussi d'autres paroles dans l'Évangile qui disent simplement qu'il ne faut pas essayer d'enlever le bon grain de l'ivraie et laisser pousser le bon grain. Donc, c'est déjà la même chose.
Ouais.
C'est des sagesses qui sont très anciennes.
Oui. Dans la religion aussi, on dit Dieu est amour. Donc, enfin, moi, je pense qu'on a vraiment cette source intérieure de bonté. L'homme est bon en soi, etc. Parfois, cette source intérieure-là peut avoir été tarie. Enfin, elle n'est pas tarie, justement. Elle était ensevelie par cet amas de négativité qu'on peut avoir, de critiques, de reproches qu'on a pu entendre. Et à un moment donné, quand on est enfant, c'est dur de faire le trait entre effectivement ce qu'un parent peut dire qu'il ne pense pas vraiment, sous le coup de la colère, il va dire des choses, etc. Mais petit à petit, l'enfant peut intégrer qu'il n'est pas assez bon, qu'il n'est pas assez bien, qu'il est trop ci, qu'il n'est pas assez là, etc. Et on va commencer à vivre avec ça. Et ça peut vraiment être très, 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 très pénalisant. À un moment donné, en arrivant à l'âge adulte, ce qui est important, c'est de faire un petit travail
de désensabler,
d'enlever tout ça pour faire rejaillir de nouveau cette source intérieure que l'on a à l'intérieur de soi.
Mais ça peut être aussi tout simplement les frères et sœurs ou les copains de classe. Hein.
Ça peut être
on
tout le monde.
On connaît le harcèlement
le
à l'école et on sait combien, entre autres, sur les questions physiques
ou
le fait d'être moins bien habillé que quelqu'un d'autre, etc. Mais ça peut marquer à vie.
À vie. Ça crée vraiment des drames incroyables. J'ai animé pas mal de séminaires là-dessus et tout. Et donc, un des exercices que je propose, c'est d'écrire les horreurs qu'on a déjà entendues et des gens de 40, 50 ans, 30 ans après, avec les larmes aux yeux, en écrivant encore tout ce qu'ils ont pu entendre, tu n'es qu'un résidu de bidet, enfin des choses horribles, vulgaires et tout, que des proches ont pu dire, etc. Et on reste encore avec ça des années après. Et donc, il y a un vrai travail d'acceptation de ça. Alors, le problème de l'acceptation de soi, c'est qu'on confond trop souvent encore l'acceptation et la résignation. En fait, beaucoup de gens font l'erreur d'imaginer, de dire « Moi, je pourrais m'aimer, je pourrais m'accepter quand j'aurai gagné $1 million. Je m'aimerai quand j'aurai perdu ces 15 kilos. Je m'aimerai quand j'aurai fait ça et ça et ça. Mais maintenant, non, je ne peux pas m'aimer. Regarde comme je suis. Je m'aimerai quand j'aurai réalisé tout ce que j'ai envie de réaliser. » En fait, en faisant ça, on confond l'acceptation et la résignation. La résignation, c'est dire « Ok, c'est comme ça et je n'essaye pas de changer. » L'acceptation, c'est dire « C'est comme ça et j'ai envie d'aller vers autre chose. » En fait, l'acceptation, c'est la première étape de l'évolution. Parce que tant que je n'accepte pas, tant que je ne m'accepte pas, c'est ça qui risque de me bloquer dans ce que je n'accepte pas en moi. Une personne qui veut perdre quelques kilos, elle est là « Oh, je m'aime pas, moi je m'aimerai quand j'aurai perdu ces kilos-là. » Elle passe dans l'armoire où il y a du chocolat, elle a envie de chocolat, elle prend un petit bout, mais comme elle est en train de se punir tout le temps, elle va prendre toute la tablette. S'accepter, c'est dire « Ok, c'est ça, mais j'ai envie d'aller vers autre chose et j'accepte que j'ai envie. Peut-être je vais prendre un petit bout, mais après je ne vais pas manger toute la tablette et progressivement je vais y arriver. » Mais on ne peut y arriver que si on s'encourage à aller dans cette voie-là plutôt que de se punir chaque fois qu'on ne le réalise pas.
En fait, il y a un principe de réalité aussi. Simplement de s'accepter tel que l'on est.
Voilà, tout
déjà,
à fait.
Déjà, c'est tout simple.
Exactement
enfin,
ça.
On regarde ce qu'on
c'est
est.
C'est tout à fait ça.
Avec ses ombres et ses lumières.
Oui. accepter dans sa grandeur, dans son potentiel, dans tout ce qu'on a d'extraordinaire, et s'accepter aussi dans ses limites actuelles. Et le problème, c'est que beaucoup de gens, on refuse de s'accepter dans ses limites parce qu'on est là dans l'idée, moi je m'aimerais quand je serai parfait, ou je m'aimerais quand il y aura ça, mais le fait de ne pas s'aimer aujourd'hui, en fait, l'acceptation et l'amour de soi n'est pas la récompense d'un chemin, en fait, c'est le préalable au chemin que l'on va emprunter.
Alors, comment se libérer de toutes ces paroles toxiques ?
Aujourd'hui, on vit dans une société justement où les choix sont énormes en livres, en séminaires, en retraite,
en thérapie.
Enfin, il y a le coaching. Il y a plein de choses qu'on peut faire aujourd'hui. La voie spirituelle peut être aussi vraiment très très chouette. Donc, je trouve qu'il y a un terreau aujourd'hui. On a une chance incroyable de vivre dans une société qui nous propose mille et une manières d'avancer par rapport à ça. Et je crois que pourquoi est-ce qu'elle nous le propose parce qu'il y a de plus en plus de gens qui comprennent, qui se rendent compte de l'importance de faire ça. Une fois qu'on a ce socle-là, effectivement, quand on a des problèmes financiers, quand on se retrouve au chômage, ou quand on a des problèmes de cœur, une séparation, un deuil à vivre, un proche qui meurt, etc., mais ce sont des deuils à vivre, ce sont plein de vicissitudes de la vie. Je dis pas que la vie est un long fleuve tranquille, justement, dans le kayak, on va se cogner contre les rochers, on va avoir des problèmes et tout, mais comment est-ce qu'on peut les surmonter? On les surmontera d'autant plus facilement qu'on a ce socle qui est en nous.
Ça veut dire se libérer du regard des autres ?
Aussi, c'est très très important, arrêter de se comparer aux autres. En fait, le problème de la comparaison, c'est qu'on est perdant à tous les coups quand on se compare aux autres. Pourquoi ? Parce qu'on compare la vie extérieure des autres à sa vie intérieure à soi. Il est impossible d'imaginer la vie intérieure de quelqu'un d'autre. L'imaginer qu'il a les plus belles réalisations, on ne sait pas ce qui vit à l'intérieur de lui-même. Il est peut-être complètement malheureux parce qu'il a ce dialogue intérieur en lui qui le sabote complètement. Il est peut-être dans une course effrénée parce qu'il est obligé de se prouver à lui-même ou à quelqu'un d'autre. Il vit peut-être un enfer. Donc, imaginer envier la vie de quelqu'un d'autre, c'est complètement idiot. La vie n'est pas une course. L'image de mon kayak, de mon bouquin, la parabole du kayakiste, c'est que la vie n'est pas une course. Parce que déjà, on ne part pas au même moment dans la vie, on a chacun nos expériences, et puis on ne sait même pas où est la ligne d'arrivée. Imaginez vouloir aller plus vite que quelqu'un, c'est complètement idiot et farfelu.
Comment être doux avec soi-même, et bienveillant, amical ?
Je crois, pour moi, c'est développer ce dialogue intérieur qu'on peut avoir avec soi-même, grâce aussi à la méditation, ça peut nous aider, c'est retrouver des moments de paix, de silence, s'écrire ces phrases gentilles qu'on peut avoir par rapport à soi. Et vraiment, c'est la clé, c'est de changer, de commencer vraiment à entretenir ce dialogue intérieur bienveillant avec soi.
Ce dialogue intérieur,
ouais.
Ça ne vient pas de l'extérieur.
Non, c'est vraiment ça, ça se construit de l'intérieur. Tout le monde le dit, Spinoza l'expliquait déjà aussi il y a quelques années. Les grands philosophes, les religions le disent tous, ça vient d'abord de soi. Il ne faut pas aller chercher à l'extérieur tout ça. Quand on part dans cette course à l'extérieur, c'est qu'on est vide, on est vidé à l'intérieur de soi. On va courir après le bonheur, mais on ne pourra jamais vraiment le trouver.
Et en fait, si on cherche trop de reconnaissance, on peut en avoir pendant un certain moment, mais c'est très éphémère.
C'est très très éphémère et ça n'arrête pas. Et c'est fatigant pour soi parce que c'est fatigant d'être constamment à la recherche de cette reconnaissance extérieure. Et c'est fatigant pour l'entourage qui, à un moment donné, j'en peux plus, quoi, de devoir tout le temps te dire t'es bon, t'es fort, t'es si, oui, ça va, lâche-moi les baskets. Et c'est là où c'est incroyable de voir, quand on voit maintenant justement sur Facebook ou Instagram ou quoi, quand on voit les gens qui postent des photos,
selfies.
Des selfies et tout, il y a des gens qui vont le poster pour partager quelque chose parce qu'ils ont envie de le partager. De nouveau, c'est tout à fait légitime. Et puis, il y a des gens qui partagent des choses pour montrer, regarder, pour remplir ce réservoir de l'extérieur de nouveau. Et c'est drôle parce que la photo peut être à peu près la même, mais le sens qu'on va donner à ce poste va être complètement différent et on le ressent. Je ne sais pas si vous avez, quand on voit quelqu'un de plus en plus, c'est visible à l'œil nu, on voit quelqu'un qui essaie de remplir son réservoir de l'extérieur ou quelqu'un qui a juste envie de partager quelque chose qu'il vit comme une chance. Quelqu'un qui vit dans une grande maison, on peut dire « regardez ma belle maison » et vouloir avoir cette reconnaissance de l'extérieur. Il y en a plein qui vivent dans une belle maison aussi, qui sont simplement contents de pouvoir jouir de ça et de remercier la vie, d'avoir la possibilité et la chance de partager ce bel endroit avec leur famille, avec leurs enfants et d'apporter du bonheur dans cette maison. C'est tout.
Paul Devendre, nous réfléchissons ensemble sur la poursuite du bonheur, la recherche du bonheur. Et vous venez de dire qu'on peut remercier la vie. C'est important de remercier la vie ?
Oui. Dans les étapes, à mon avis, à faire pour reprendre son kayak et repartir à la rivière, dans la rivière de la vie et pagayer avec bonheur, c'est d'avoir cette acceptation de soi, ne pas se comparer aux autres et aussi avoir vraiment un sentiment de gratitude par rapport à, au lever de soleil, au coucher de soleil, à la nature qui nous entoure, au fait de pouvoir respirer simplement, de voir la merveille de notre corps, même s'il est imparfait, même si on a un peu mal à gauche et à droite, même s'il n'est pas aussi musclé parfois qu'on le souhaiterait. Mais c'est exceptionnel d'avoir ce sang qui circule dans nos veines, d'avoir ces poumons qui s'emplissent d'air, et on n'a rien à faire pour ça. Et c'est là où je crois que c'est important de se rendre compte que on n'a pas à gagner tout ça, on a juste la possibilité d'en profiter et de remercier la vie. Et je crois que c'est vraiment une de ces notions qui est fondamentale pour retrouver cette paix et retrouver cette source à l'intérieur. Parce qu'une fois que cette source est jaillie, eh bien on peut donner le meilleur de soi-même aux autres. Le monde a besoin de nous, du meilleur de nous-mêmes. Mandela le disait magnifiquement bien et dit qui sommes-nous pour... Ce n'est pas le fait de se noyer avec les autres qui va les aider. On peut les aider à se sauver justement en leur montrant la voie, en leur montrant aussi que peuvent retrouver cette énergie en eux.
C'est pas toujours facile de savoir quel est le meilleur de nous-mêmes.
Non. Il y a cette partie intuitive qu'on peut avoir aussi. Une autre chose qui est fondamentale à mon sens aussi, c'est de vivre vraiment l'instant présent. D'être présent dans ce que l'on fait le plus possible. Trop souvent, on est pollué par le passé, par le futur, justement, par rapport à notre ego qui va dire « il faut que je fasse ça pour montrer que » ou « pour faire plaisir à », etc. Non, qu'est-ce qui me motive, moi? Qu'est-ce qui est important pour moi aujourd'hui et maintenant? Et plus je suis dans le présent, c'est là où je prends les bonnes décisions, grâce à l'intuition que je vais pouvoir développer, en m'appuyant sur les erreurs que j'ai pu faire et sur les réussites que j'ai pu avoir, en m'appuyant aussi sur la direction que j'ai envie de prendre, mais en étant totalement motivé pour aller quelque part, et en même temps en étant capable de lâcher prise à l'instant, s'il y a peut-être une voie qui nous emmène sur un chemin qu'on n'avait pas imaginé.
Donc le sens de la vie est important, il faut savoir où est-ce qu'on va?
À mon avis, c'est fondamental d'avoir ce sens-là, oui, de trouver ce sens. Il n'y a pas un sens pour tout le monde, c'est à chacun à soi trouver ça.
Sa passion.
Le chercher de l'extérieur ne veut pas dire, mais c'est ça, trouver sa passion. Dans son métier, tous les métiers peuvent avoir un sens. En fait, pendant les 30 Glorieuses, et le travail à la chaîne, etc., la révolution industrielle a ôté énormément de sens au travail des gens, où il y avait des gens qui décidaient, des gens qui obéissaient, et toute une masse qui était là, qui n'avait plus à réfléchir, qui ne pouvait plus réfléchir, et qui était juste là en train de s'abrutir dans le bruit et tout ça, et ça devait être horrible. Je pense qu'aujourd'hui, il est essentiel de se réapproprier aussi le sens que l'on donne à son travail, à tous les niveaux. Et les entreprises aujourd'hui, c'est là où il y a un véritable changement dans les organisations du travail aussi, etc., où on voit que les entreprises aujourd'hui recherchent des gens, non pas simplement des bras, on a besoin de toute l'humanité de la personne aujourd'hui dans un métier. On voit à quel point il y a des études qui montrent aujourd'hui que, j'ai plus le chiffre exact, mais c'est plus de 80% des gens se disent totalement désengagés par rapport à leur travail. C'est horrible, parce que si on est là que pour le chèque qu'on va recevoir à la fin du mois, pour la sécurité que ça apporte, on perd toute une partie de sa vie si ce qu'on fait n'a aucun sens pour soi. Et on voit les jeunes, justement, sont dans cette recherche de sens, ne veulent, ont de moins en moins envie et sont prêts à aborder une partie d'eux-mêmes, justement, pour ça.
Paul Devendre, nous réfléchissons ensemble sur la poursuite du bonheur, la recherche du bonheur. Alors, on sent des nouvelles pistes, comme, je ne sais pas, moi, par exemple, l'agriculture bio ou raisonnée, ouais. Ou alors l'éducation bienveillante, ou les entreprises libérées.
Ouais. Ouais.
C'est ça dont vous voulez parler?
Oui, je suis en même temps très pessimiste et très optimiste par rapport à l'avenir. Je suis pessimiste parce que je pense que le barrage qui a été construit durant les 30 années, les 30 glorieuses qui nous a permis de vivre dans cette sécurité, le barrage ne tient plus. Alors on aurait pu le construire plus grand, plus fort, on aurait pu faire autre chose peut-être, etc. Et je ne veux pas le casser, hein, je ne suis pas là pour le dynamiter. Je constate simplement que le barrage ne tient plus. Et depuis 40 ans, il y a plein de gens qui sont aujourd'hui en train de se battre sur un lac dont la surface se rétrécit. Il y a plein de gens qui dépensent une énergie folle, un peu comme sur le Titanic, où ils essayent de garder leur cabine alors que le bateau a touché l'iceberg. Donc ça demande beaucoup d'énergie, mais c'est peut-être pas le plus important. Je crois qu'aujourd'hui, c'est important de repartir dans la rivière, de reprendre son kayak et de prendre ce risque. Et ça va effectivement, donc c'est là où je suis optimiste, parce que je vois de plus en plus de projets qui vont dans tous les sens. Comme vous le citiez, d'entreprises libérées, de nouvelles organisations du travail, d'agriculture raisonnée, dans tous les domaines de la vie, il y a plein de choses à faire, et les évolutions technologiques aussi nous permettent de vivre autrement aujourd'hui. Mais il faut embrasser ces nouvelles technologies en ayant ce socle de cette confiance et de cette estime de soi, sinon le risque c'est qu'on se perde et qu'on devienne abruti par ça.
Alors, vos discours, je l'entends très bien pour la jeune génération, mais que dire aux générations anciennes?
Je pense que certaines générations anciennes, j'en vois avec des chefs d'entreprise aujourd'hui, de plus en plus, il y en a beaucoup à 50 ans qui se posent beaucoup de questions.
Ah, mais ça, c'est vrai qu'à 50 ans, on est senior, mais je parlais peut-être des plus de 75 ans.
Des plus de 75 ans, même, oui. C'est horrible. Enfin, ça doit être très, très compliqué aujourd'hui parce que on leur a promis depuis 45, on a promis un système et on le voit, la difficulté des grèves en France depuis tant de temps aujourd'hui. C'est horrible aujourd'hui, effectivement, de dire, bah, écoutez, on vous a promis quelque chose, mais on ne peut plus le tenir. C'est atroce.
La retraite, la sécurité sociale,
les systèmes. Mais parce que en 45, on ne pouvait pas imaginer qu'on allait gagner 10-15 ans de vie en deux générations. On ne pouvait pas imaginer l'évolution, la mondialisation qui a fait les flux migratoires.
Oui, les problèmes démographiques.
Ou les opportunités démographiques aussi que ça a pu générer. On n'imaginait pas les maladies chroniques qu'on pouvait soigner pendant 20 ans, les progrès de la médecine, etc. Donc, ils ont fait du mieux qu'ils pouvaient à cette époque-là. Mais aujourd'hui, le constat est que ça devient compliqué de continuer à financer de la manière dont on l'a imaginé. C'est pas pour ça qu'il ne faut plus de solidarité, hein. Je veux pas dire que la rivière, c'est l'anarchie et chacun fait n'importe quoi. Mais il faut une autre forme de solidarité.
En fait, vous n'opposez pas solidarité et liberté.
Non, non. Mais je crois qu'il faut trouver une nouvelle forme de solidarité aujourd'hui. Dans une vision plus de liberté, effectivement, où on n'a pas toutes les réponses. Parce que je pense qu'il était utopique d'imaginer qu'on pourrait construire un mur qui serait suffisamment solide pour nous maintenir en sécurité jusqu'à la fin de nos jours. On a vu, ça avait commencé avec le rapport Meadows et les problèmes de la croissance. On le voit, parce que la société qu'on a créée, quand même, il y a eu plein de beaux aspects, mais il y a quand même, sur certains égards, moi, je trouve que la société qu'on laisse à nos enfants, à nos petits-enfants, c'est un peu comme une boîte de nuit qu'on rallume à 5 heures du matin. La vision n'est pas tout à fait idyllique, hein. Le dérèglement climatique est atroce, les glaces sont en train de fondre, les océans sont couverts de plastique, les sols sont appauvris par les engrais chimiques et il y a plein de gens qui vivent sous des antidépresseurs et sous l'alcool et sous la drogue parce qu'ils n'ont trouvé aucune énergie en eux-mêmes et qui ne ressentent pas d'avenir. La situation n'est pas folichonne et continuer à imaginer que ce système-là peut perdurer alors qu'on voit les dégâts qu'il crée, à un moment donné, je pense que c'est la faute de personne, mais il faut qu'on vous donne une autre vision, même à 75 ans, à mon avis. Mais on peut retrouver beaucoup de plaisir à le faire. Quand on voit, par exemple, dans les maisons de retraite, ce qu'on peut imaginer, quand on voit d'un côté des enfants qui sont laissés eux-mêmes dans les écoles jusqu'à 6 heures du soir, et puis dans des maisons de retraite, des personnes âgées qui seraient ravies de pouvoir s'en occuper, il y a des projets maintenant où on met en même temps les intergénérationnels. Enfin, il y a plein de choses à faire qu'on peut imaginer pour rendre la vie et rendre du sens aux gens. Quel est l'intérêt de laisser des gens mourir en attendant la mort comme ça ça n'a pas de sens.
On sent aujourd'hui beaucoup combien les grands-parents ou les arrière-grands-parents sont extrêmement importants pour le lien social.
Mais oui, il faut recréer ça. Enfin, imaginez qu'on continue à vivre dans nos petites parcelles en ayant peur de devoir ces lacs se rétrécir de plus en plus. C'est horrible pour soi, c'est horrible pour la société et tout. Alors que, à mon sens, il y a plein de choses à faire. Le travail est énorme, hein, parce qu'il y a des écueils à éviter. Évidemment, il faut pas que les grands, les GAFA et autres grosses sociétés s'approprient des bras entiers de rivières pour leur seul profit. Enfin, donc, il y a une organisation mondiale à créer. Il y a un truc énorme à faire. Il y a une vraie solidarité à créer. Mais ces vraies solidarités aujourd'hui, on voit qu'elles doivent se baser sur la confiance. Quand on voit, par exemple, le succès de sites comme Airbnb ou comme Couchsurfing ou des choses comme ça, on voit que ces systèmes ne fonctionnent que sur la confiance aussi qu'on peut avoir. Accepter que quelqu'un vienne dans notre maison, même on prête nos voitures, etc. Enfin, on le voit parce que y a des confiants, on est noté, etc. On sait qu'on peut pas faire n'importe quoi. Donc, ces systèmes qu'on est en train de développer ne sont plus basés tellement sur le contrôle, mais bien plus sur la confiance et la solidarité. Et pour ça, il faut qu'on ait créé ce socle minimum d'estime et de confiance de soi.
Un grand merci, Paul Devande. Nous retrouvons la fois prochaine pour parler justement de ces liens relationnels.
D'accord.